suis Roland Bizien. C'est moi qui ai lancé l'appel des 79 pour Pontagnou au mois de septembre. Et donc avec mes amis Gilles Graal et Roland Leborn, donc on a fondé l'association Brest-Pontagnou donc début du mois de décembre.
Donc vous êtes les présidents de l'association ?
C'est Roland Leborn qui préside. Voilà, Roland Leborn donc, qui est agrégé d'histoire-géographie. Et Sylvie Castel-Alarçon qui co-préside. Donc on a mis une femme et un homme co-président. Voilà. Et puis il y a Gilles Graal et vice-président. Et voilà, on a un bureau de 6 membres.
Est-ce que vous pouvez présenter la nouvelle association Brest-Pontagnou ?
C'est une association qui vient de se créer là au mois de début décembre, donc 2018, c'est ça, tout début du mois, et qui fait suite en fait à un appel qui a été lancé à la fin du mois de septembre de cette année pour s'opposer en fait à la vente de l'ancienne prison de Pontagnou, donc dans le quartier de Recouvrance, donc à un promoteur immobilier parisien.
Comment ça s'est passé pour contrer donc ce projet immobilier ?
Ça s'est passé d'abord dans la précipitation parce qu'en fait la première information sur le projet a été lancée au cœur de l'été, dans la torpeur de l'été brestois, à la fin du mois de juillet avec une petite vidéo sur le site du Telegram. Le débat a vraiment été lancé dans la presse, donc dans le Telegram et dans Ouest France principalement, donc au mois de septembre. Et donc en présentant le projet comme quasiment acté, comme quasiment fait, c'est-à-dire la vente effectivement de la prison. Après, on a commencé vraiment à se mobiliser, donc à ce promoteur François Ier. On a fait ce qu'il fallait, on a essayé en tout cas de rentrer en contact d'abord avec la presse pour ensuite obtenir le droit de s'exprimer publiquement.
Comment ça se fait que le promoteur immobilier François Ier se soit intéressé à ce lieu ?
L'histoire nous raconte que ce serait le François Ier qui aurait fait sa proposition, enfin en tout cas c'est ce que nous dit le maire dans la presse, hein, qu'en fait la proposition lui a été faite et que donc, comme le dit le maire, on aurait été bête de refuser. Alors en fait, ça veut dire que la proposition était financièrement en fait très très faible, puisque le prix, parce qu'il faut aussi parler de sous à un moment donné, d'argent, le prix de cession était de 250 000 euros. C'est à peu près ce que vaut une maison aujourd'hui. En plus, en partant du principe qu'à mon avis, c'est même pas estimable en fait, et non cessible de fait, parce que le patrimoine historique normalement n'est pas cessible comme ça. Mais s'il l'était, certainement pas à ce prix-là. Quand bien même il y a des travaux effectués, on ne parle pas d'un appartement. Donc c'est vrai qu'on a eu des archives, on a eu des papiers officiels qui nous sont arrivés de manière miraculeuse. Il y a des gens qui étaient contre ce projet, qui nous ont fait parvenir des documents, notamment des documents de la Direction Générale des Finances Publiques, dans lesquels on avait un descriptif du bien, mais façon, si vous voulez, appartement, bien immobilier. Et donc quelque chose qui est surréaliste, bon, moi j'ai le document que j'ai fait parvenir à la presse, donc ils peuvent l'utiliser comme ils veulent, hein, le Telegram, le West France long, où on voit ce bien à 250 000 euros qui avait été estimé par les domaines, c'est-à-dire par l'État, à 650 000, ce qui était déjà pas très cher. Donc les historiens de Brest, donc je pense à Jean Carvé, Philippe Jarnoux, qui nous ont soutenus, parce que je les ai pas cités, il y a beaucoup d'historiens de l'UBO qui enseignent toujours ou plus, parce que Jean Carvé est en retraite, c'était évidemment les premiers à dire que c'était absolument ridicule, qu'on parlait là de prix ridiculement bas, qui ne correspondaient à rien, et certainement pas à l'histoire de la prison, et certainement pas même au bâti de la prison.
Comment vous avez fait pour vous mobiliser ? Parce que l'association n'existait pas encore, donc comment vous avez fait pour vous regrouper ?
C'est typiquement une mobilisation Facebook, hein. Alors c'est vraiment l'usage offensif des réseaux sociaux. On n'aurait rien pu faire du tout sans Facebook, c'est tout à fait évident. Moi j'ai retrouvé en fait le contact d'amis dont j'avais perdu la trace, et qui étaient concernés au premier chef par la prison, dans leur vie privée, dans leur vie familiale. Donc il y avait des personnes qui étaient passées par Pontagnou, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient été détenues là. Et c'est grâce au réseau social vraiment tant que tel qu'on a réussi à se connecter au sens premier et ensuite à fédérer autour, parce qu'on voulait un symbole, et ce symbole c'était les 79 ans qui nous séparaient de la Seconde Guerre mondiale, d'où l'appel des 79 lancé le 26 septembre.
Et comment vous avez fait pour créer votre association ? Quels sont vos projets ?
Bon, l'association après c'est assez simple, c'est que de l'administratif, une fois que vous avez les bonnes volontés ça va très vite, voilà, vous remplissez les obligations statutaires, voilà, réglementaires avec la préfecture, donc là c'est fait, et ensuite maintenant il s'agit de continuer à se mobiliser d'abord pour, j'allais dire, en finir définitivement avec le projet initial dont on ne parle plus. Donc là, c'est un petit peu silence radio. C'est-à-dire qu'en fait, le 12 octobre, au Conseil de Métropole, le principe d'une grande concertation publique a été lancé. Donc ça a été dans la presse dès le lendemain, donc le 13, donc dans l'Ouest de France et dans le Télégramme de Brest. Et donc, on attend toujours que la fameuse concertation débute. Nous, évidemment, on a créé l'association pour être un partenaire à part entière de la concertation. Et puis également pour faire des propositions pour l'après.
Vous avez combien d'adhérents maintenant ? Et c'est quel type d'adhérents ? C'est des historiens ? C'est des férus d'histoire ? Ou c'est juste des brestois qui veulent voir leur patrimoine conservé ?
Vous avez dit, c'est tout ça. Au début, bon, on est historien. Moi, je suis historien de Brest du 19e et du 20e. Mes amis sont historiens de formation ou profs d'histoire. Mais très vite, on a voulu, comme vous dites, les brestois. Avec les brestois de tous les quartiers, notamment évidemment de Recouvrance, mais aussi des brestois qui n'habitent plus la ville. Car contrairement à la légende, tous les brestois ne vivent pas à Brest. Ça, c'est une légende tenace. Et c'est vrai que beaucoup reviennent. Moi, ça a été mon cas. J'étais 10 ans à la région parisienne Orléans. Je suis revenu. Donc, je suis un cas très, très, très classique. Mais il y en a quand même beaucoup ailleurs. Donc là, pour l'instant, on était 79 dans l'appel. Tout le monde n'a pas cotisé. Vous savez, pour faire cotiser les gens, il faut toujours un petit peu de temps. Surtout là, ça a été la mobilisation des Gilets jaunes, les fêtes de fin d'année, la crise municipale à Brest, qui est très importante quand même. Donc voilà, mais ça arrive. On est déjà une vingtaine à jour. jours de cotisation. Et hier, on a eu la première adhésion de l'étranger, donc d'un Suédois qui nous suit depuis le début, qui écrit un bouquin sur Brest, un roman donc, dont l'action se situe à Recouvance. Desi Edim, il s'appelle. Il est prof au lycée de Karlstadt en Suède. Et donc voilà, notre premier adhérent étranger. Donc on est confiant. Et puis voilà, maintenant, il faut fédérer. À mon avis, on est parti pour des années.
C'est quoi vos projets si vous arrivez à pouvoir faire quelque chose avec Montagnou?
Au début, c'est vrai que c'était vraiment se mobiliser pour s'opposer à quelque chose qui ne nous plaisait pas du tout et qu'on trouvait même complètement incongru, voire choquant, quoi. C'est-à-dire que moi et mes copains, là, historiens de formation aussi, ont eu leur grand-père ou leur grand-oncle qui a été torturé. Hein. Vous savez, quand on dit questionner, c'est le mot poli pour dire torturé. Le vocabulaire, parfois dans l'histoire, est un peu bizarre. Donc c'est un mot qui remonte évidemment très très longtemps. Et ils ont ensuite été assassinés, ils ont ensuite été exécutés, notamment au Bougain. Vous savez, le Bougain à Brest, le quartier de Bougain, où était la vieille prison de Brest. Et donc les Allemands, la Gestapo, étaient à Bonne Nouvelle, mais également il y a eu des exécutions au Bougain, notamment en 1944. Donc quand on a vu que nos familles, entre guillemets, si vous voulez, au sens large, qui étaient passées, enfin en tout cas certains de leurs membres par Pontagnou, voyaient un peu leur mémoire complètement bafouée, nous ça nous a complètement scandalisés. Donc au début, il fallait bloquer ça, donc ça a été fait, mais nous on est méfiants de nature et de formation, et très très critiques, et donc on veut avoir la certitude déjà que ce premier projet est remisé définitivement donc, aux oubliettes, et qu'on passe à un autre temps pour avoir un projet totalement différent. Et ce projet ne peut pas être résidentiel. Dans notre esprit, ça ne peut pas être résidentiel, et certainement pas résidentiel de luxe.
Surtout qu'avec les Capucins à côté, il y a vocation à faire quelque chose de culturel avec ce lieu.
Voilà, alors c'est, comme vous dites aussi, c'est le même quartier. Donc moi, ma thèse porte sur Brest à la Belle Époque, mais je suis, comme on dit, moderniste de formation. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le 18e siècle, c'est un siècle qui est absolument passionnant, le siècle d'avant la Révolution, comment on arrive à la Révolution, quand même, c'est intéressant. Et Brest, bon, c'est fascinant. On est sur un chantier de l'histoire à Brest, tout est à écrire quasiment ou à réécrire, c'est incroyable. Et sur le 18e, en fait, déjà, Recouvrance n'existe pas. Si vous voulez, quelque part, c'est juste la rive droite, et le vrai quartier, c'est Pontagnou. Donc ce que vous dites à propos des Capucins, c'est évidemment, à l'époque, c'était un couvent, après ça a beaucoup changé, bon, c'est devenu ce que c'est devenu, ça a été très bien aménagé, mais c'est le même quartier. Et puis on est à proximité directe. Et puis il y a aussi le bâtiment au Lion de la Marine, qui est juste là, donc lui qui est dans l'enceinte de l'arsenal, qui vient d'être réhabilité très très bien. Et donc tout ça, ça forme un tout, quoi. Ça forme le quartier de Pontagnou, qui existe depuis le pavage de la rue Saint-Malo. Évidemment, on arrive à Mireille Kahn et tout son combat depuis 30 ans. Mireille et Catherine Guillon, notamment, vont fêter les 30 ans de leur assaut, Vivre la rue. Et donc, ce combat complètement acharné pour que les promoteurs ou les bulldozers ne rayent pas la rue Saint-Malo, bah, finalement, c'est notre combat aussi. On va se fédérer. Moi, je suis adhérent de Vivre la rue. Tout ça, c'est un combat commun aussi. Et après, pour se projeter, quand même, pour avoir aussi des propositions pour l'après, qu'est-ce qu'on peut bien mettre, qu'est-ce qu'on peut faire de bien dans la prison.
Parce qu'on dit souvent que Brest, c'est pas très intéressant au niveau historique. Mais en fait, à ce niveau-là, Recouvrance, on peut retrouver pas mal d'éléments historiques qui nous rappellent donc toute la vie de Brest.
Complètement. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues. C'est la ville, en fait, il y a le plus d'images qui sont plus mythiques, mythologiques, historiques. Alors, évidemment, il y a une histoire de Brest qui est écrite, il ne s'agit pas de dire le contraire. Mais il reste des choses du vieux Brest. Tout n'a pas été détruit. Donc là, on parle de deux choses différentes. On parle de l'histoire et du patrimoine. Mais nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de lier les deux. En fait, c'est une prison du Premier Empire qui a été construite en 1810. Avant, il y avait juste une fonderie, il n'y avait pas de bâtiment avant. Il y avait une autre prison, mais elle n'était pas là. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Donc là, l'histoire aussi, elle est fausse. Notamment, là, on revient à Internet, on parlait de Facebook tout à l'heure. L'article donc, du Wikipédia sur Pontagnou est totalement faux. Là, ça, je l'ai déjà mis sur mon profil. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas se fier. Sur l'histoire et la mémoire, mais on aimerait que cette prison-là soit restaurée d'abord, conservée au moins en partie, parce qu'il y a eu des évolutions du bâtiment. Tout n'a pas la même valeur patrimoniale, mais qu'il y a un lien évidemment avec la mémoire, hein, qu'on rappelle ce qui s'y est passé pour les détenus d'abord. Hein, c'est quand même une prison avec leur histoire. Il y a tout un univers carcéral, il y a toute une histoire à faire ou à refaire. Et puis aussi les périodes clés de l'histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale et la Résistance. Quoi. Tout ça pour l'expliquer, pour rappeler la mémoire et puis pour faire de l'histoire. Parce que nous, on n'est pas en train de séparer l'histoire et la mémoire, on est historien et on veut faire de l'histoire. Et d'abord, on a commencé par refaire l'histoire de Pontagnou parce que c'était quand même pas très clair pour nous. C'était quand même une histoire incroyable, en fait, parce que l'architecte, l'ingénieur, s'appelle Jean-Nicolas Trouille. Et en fait, c'est un personnage de premier plan qui a fait cette prison. Il est là dès 1789, il a un rôle dans la Révolution française, un rôle de premier plan. Et c'est lui, notamment, qui va créer, en fait, la notion de patrimoine historique. C'est quand même un comble. On a failli détruire, on était sur le point de vendre une prison dont le père est le père du patrimoine historique en France. Il s'est opposé à la destruction du château de Versailles pendant la Révolution. C'est juste un truc. Nous, quand on l'a découvert, ça, évidemment, on s'est dit Eureka, c'était juste incroyable. Et bizarrement, il n'a pas la place qu'il mérite. C'est vraiment un personnage de premier plan. Et dans l'histoire de Brest, il y en a plein comme ça, qui sont passés un peu par pertes et profits, on se demande pourquoi.
Et donc, avec votre association, vous comptez faire des conférences à ce sujet de la sensibilisation au public?
Là, on va d'abord essayer d'être un peu plus nombreux, et puis après, viendra le moment des conférences. Donc, certainement, partenariat avec l'UBO, les étudiants, parce qu'on est là aussi beaucoup pour les étudiants, enfin, pas pour eux, mais notamment aussi avec eux, avec les jeunes. jeunes. Hein. Et je sais qu'il y a une demande, notamment de l'association des étudiants de Brest, je crois que c'est Héraclès, je crois que le nom n'a pas changé depuis des années, c'est un très très vieux nom aussi, il y a toute une histoire aussi. Hein. Et voilà, et puis après il y aura des conférences autonomes, et puis bon, voilà, j'espère qu'on essaiera d'en faire plusieurs, au moins en 2019. Et puis on progressera comme ça dans l'exposition de l'histoire de Pontagnou, et aussi on va essayer de porter un projet, ou en tout cas que les projets viennent à nous pour qu'on soit un relais aussi entre la collectivité et puis la communauté des Brestois.
Est-ce que un projet de crowdfunding pourrait voir le jour pour un réaménagement, une rénovation du lieu?
Ah oui, complètement, en fait c'est là on pourrait même racheter le lieu, c'est-à-dire qu'en fait faut savoir que le dispositif légal tel qu'il est prévu prévoyait la vente donc à ce fameux promoteur François 1er, mais il y a toujours un plan B, vous savez l'administration est suffisamment bien faite, c'est des siècles même de pratique, donc il y a toujours un plan B. Et le plan B, c'est que toute personne morale peut se substituer donc, au promoteur initial, on va dire. Donc on va dire, nous, juridiquement, on est tout à fait en mesure d'être cette personne morale-là. Donc je ne dis pas que c'est la priorité, et puis on n'en est pas là. Mais par contre, le financement, comme vous dites, crowdfunding, donc la levée de fonds sur Internet, c'est évident que c'est une possibilité, et une des possibilités, parce que ça peut être aussi un financement participatif, donc ça c'est ce dont on parle là, mais aussi des entreprises, de partenaires privés, de mécénats, et pourquoi pas le loto du patrimoine. Parce que là, on est sur un bâtiment qui est exceptionnel. Et en fait, avec une rénovation et des projets qui, évidemment, c'est les vrais des millions d'euros, peut-être 8, 10, 12 millions, j'en ai aucune idée, je ne suis pas financier, mais ça se trouve quoi, quand ça vaut le coup, qu'il y a des choses à faire et qui ne seraient pas forcément strictement culturelles. Le bâtiment est grand, il y a certainement du culturel à faire, bon, c'est notre priorité principale, mais on est ouvert à tout. C'est quand même un bâtiment où il y a 5 niveaux, donc, avec plus de 2000 m² de plancher, vous voyez, donc ça peut être aussi un levier de dynamisme, d'activité économique, vous voyez, de rayonnement métropolitain. Nous, on n'est pas bornés. Quoi.
Est-ce que vous avez des exemples de prisons comme Pontagnou qui ont été réaménagées, qui vous inspirent dans votre projet?
Effectivement, il y a une prison en Espagne qui a été récemment réhabilitée, donc une ancienne prison de l'époque franquiste, avec toute une histoire évidemment aussi lourde, très très importante, qui vient d'être réhabilitée en Espagne. Il y a des exemples. Là pour l'instant on n'a pas le site internet encore, ça sera fait en janvier, donc là il y a une page Facebook, mais c'est très bien, une page Facebook, ça peut suffire aussi, hein, qui s'appelle Brest Pontagnou. On a mis Brest parce que voilà, à Pontagnou, pour nous les Brestois c'est évident, vu de l'étranger ou de Bordeaux, bon, vaut mieux rappeler que c'est Brest quand même. Brest c'est une des villes les plus connues au monde. Alors évidemment je parle des villes moyennes, quoi, je parle pas évidemment capitale, tout le monde a compris, mais c'est une des villes moyennes les plus connues. Bon, après, ça rejoint aussi la notoriété de la Bretagne, si vous voulez. Donc, voilà, donc Brest est connu, Pontagnou moins, donc on met les deux ensemble. Bah, évidemment, j'appelle le plus de personnes possible à nous rejoindre. On accueille tout le monde. Et voilà, moyennant une modeste cotisation de 15 euros, qui est de 10 euros pour les étudiants et qui peut même être de moins les personnes n'ont pas trop de sous. Évidemment, il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'on soit le plus nombreux possible, parce que vous savez, les décideurs commencent toujours par vous dire combien vous êtes. Donc, il faut qu'on soit nombreux. J'espère qu'on sera dans l'année qui vient, on sera de plus en plus nombreux.